Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 126. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante. Ouais, the whole gang is back.
Oui, effectivement, ça fait plusieurs podcasts qu'on n'était pas les trois membres fondateurs ensemble. Donc, enfin, on est tous autour du micro. Mm-hmm. Et en plus, pour une belle cause, parce que c'est la programmation du 44e Festival du Nouveau Cinéma qui était annoncé ce mardi. Édition qui s'annonce vraiment plaisante, vraiment excitante. Moi, j'étais d'ailleurs à la conférence de presse, puis c'était assez incroyable de voir tous les films un après l'autre sortir. Tu sais, honnêtement, tous les gros canons qu'on attendait, ou presque, sont tous là. On sortait de la conférence de presse, puis on était tous comme... Il y a tellement de films que je veux voir, c'est ça qu'on se disait un peu les journalistes dans
j'aime
la salle.
Ça. À chaque année, je le manque, moi. Je peux même pas être là, tu sais.
Ouais, c'est ça. Rémi, on va tourner le couteau dans la plaie un peu pour les 10 prochaines minutes pendant qu'on parle de la programmation.
Ben, à chaque année, ceux qui savent pas, moi, je fais le Kino Cabaret, donc les défis 72 heures de création. Puis comme je suis dans l'organisation, je dois être sur place, donc c'est un partenariat avec le FNC, mais là... Mais ça fait qu'à chaque année, je manque la programmation parce qu'il faut que je sois présent pour aider les réalisateurs à faire leurs films. Donc,
Mais ceci dit, Rémi, on va en parler tout de suite. Toi, tu as vu un des films, je pense, pendant que tu étais en Europe, le film Much Love.
Oui!
Parle-nous-en, parce que tu m'as dit que c'était vraiment bon, ce film-là. Je l'ai pas encore écouté.
Ben, en fait, c'est un film sur la prostitution au Maroc, qui est un sujet quand même assez lourd. Le film a été banni dans son pays d'origine. Mais le film s'est promené beaucoup dans les festivals par contre, donc ça, il y a une belle visibilité et avec raison. C'est l'histoire de trois prostituées marocaines, puis c'est très anecdotique dans sa forme, dans le sens qu'il y a, tu sais, il y a une évolution de personnage, mais quand même ça fait juste présenter un portrait de ce que c'est la prostitution là-bas. Okay. Donc chaque personnage a sa couleur, il y en a une qui a pas envie de faire ça, il y en a une qui sont obligées de faire ça pour avoir de l'argent pour ses enfants. Mais les personnages sont super bien construits, puis surtout c'est pas un film trop lourd malgré le sujet. C'est un film qui a réussi quand même à bien faire passer ben, la couleur des personnages sans rendre ça trop drabe, sans rendre ça trop trop lourd, puis trop inaccessible.
Mais moi, l'histoire autour du film me fascine aussi. Tu sais, Nabil Ayouch a été vraiment traité dans la boue. Supposément que les comédiennes aussi, ils vivent vraiment difficile, là. Tu sais, tout le post-Much Love, okay. Justement. Ouais, c'est vraiment la grosse
affaire. Un peu à la vie d'Adèle.
Ouais, c'est ça, vraiment ostracisé. Puis tout ça, par la société, là, au Maroc, supposément que le film a fait vraiment une grosse commotion là-bas. Mais finalement, par beaucoup de gens qui l'auraient même pas vu. Parce que ce que tu sembles dire, Rémi, c'est que le film a fait quand même un bon travail de pas condamner trop peut-être les personnages ou même la société, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. Puis le sujet est super edgy de base, puis là-bas ça doit l'être encore dans c'est quand même un portrait pas super beau de leur société là. mais reste que c'est revendicateur, puis c'est ça qui fait réagir là-bas. Mais néanmoins, c'est tellement bien fait, c'est tellement réaliste comme portrait. Puis c'est ça, c'est pas dénonciateur, c'est pas horrible envers ces personnages. Ils montent pas les prostituées en disant comme regardez comment c'est des humaines effroyables. Tu sais, ils les présentent vraiment comme des personnages très très humains. Donc c'est là que le film trouve sa force là. C'est des vraiment des beaux portraits, puis c'est tourné de façon très réaliste. C'est ça là. Ben, je vois pourquoi ça a dû faire réagir là-bas, mais en même temps, c'est vraiment un film magnifique là.
Donc si je comprends bien, tu donnes beaucoup d'amour à Much Love, et
mais pas beaucoup d'amour à Love.
Oh my God,
Mais hey, en passant, j'ai écouté le podcast la semaine passée. Moi, j'étais pas là personnellement, mais je l'ai écouté en travaillant. Puis toute la portion sur Love, ça m'a vraiment fait rire. Mais en gros, tu le déconseilles. Si on peut revenir là-dessus, mais méga rapidement.
Tu veux vraiment faire un part 2, là? C'est horrible, ce film-là. Mais c'est encore... comme pour beaucoup de films de Gaspar Noé, c'est genre... Tu le regardes comme c'est un genre de... On va voir jusqu'où il est allé cette fois-ci. Là. Ouais, c'est quasiment une souffrance de comment on appelle ça? Un peu un plaisir coupable, mais un...
quelque chose de sadique.
Ouais, c'est ça. Tu le regardes de façon sadique pour voir pour voir jusqu'où il est allé, là.
Avec masochisme. Ouais.
Ceci dit, moi, j'ai mon rendez-vous. Ma place est prise et puis j'ai possiblement aussi une entrevue avec Gaspard Noé qui se profile. Oh, donc, j'ai bien hâte de voir ça.
Punch-le dans sa face de ma part, s'il te plaît.
Bon, ben voilà. mais juste pour finir, hey, Much Love, moi, je l'attends beaucoup. En fait, c'était un des films qui est sur mon radar pour le FNC. Puis,
ouais, puis j'ai pensé à toi, Pascal. Si... Ça a beaucoup de ton style, en fait, le style de tes courts-métrages, les portraits de femmes... femme troublée, disons. J'étais vraiment reconnu. Il y a des scènes là, que je pensais là, direct à toi. Là. Des scènes de club, entre autres, qui brisent le rythme dans le film. C'est vraiment un beau film.
Ouais. Puis si la controverse pourrait avoir peut-être une chose de positive, c'est que peut-être que finalement les gens en parlent, c'est que sur le nombre de films qui sont faits par année, il y a quelques films comme ça, des fois, qui ont un peu des histoires. Puis des fois, c'est pas le film lui-même qui fait jaser, ça c'est dommage, mais au final, des fois, au moins, ça. Je sais pas, ça met ton film un peu sur la map, puis après ça, les gens se font leur idée, puis on en parle. Puis ça, c'est un des films qui a fait ça. T'sais, Nabil Ayouch, personnellement, c'est pas un cinéaste nécessairement qui était sur, justement, mon radar de cinéphile. Mais ce film-là, définitivement, je vais essayer d'aller le voir au FNC. Fait que, ouais!
Parfait. Donc, c'est ça. J'imagine, Rémi, t'as pas vraiment regardé la programmation comme tu pourras pas y aller.
Je peux-tu juste dire un truc sur la programmation, que je suis quand même...
Vas-y.
Ben, il y a vraiment beaucoup de films québécois de gens qu'on a pas tant vu avant, là, genre des premiers films québécois. Là. J'étais quand même... en tout cas, c'est une agréable surprise en même temps. Là. C'est des nouveaux cinéastes en fait qui ressortent au Québec.
Oui, aussi quelques coproductions aussi. Notamment dans les nouveaux films québécois, comme tu parles, il y a le cœur de Madame Sabali.
Oui.
C'est Ryan McKenna qui fait son premier long-métrage, si je ne m'abuse. Et produit par Voyelle Film, on a bien hâte de voir ça, avec Marie Brassard qui se fait, dans le fond, une opération à cœur... elle se fait donner le cœur d'une Africaine, d'une Malienne, et puis ce serait une espèce de petite comédie un peu légère là-dessus. Ensuite, il y a aussi Fatima dans les films québécois, qui a l'air très intéressant. J'avais vu des images à la conférence de presse. Un retour depuis longtemps qu'on l'attend, celui-là, Endorphine d'André Turpin. André Turpin, évidemment, il est surtout connu pour son travail de directeur photo. Il avait réalisé Le crabe dans la tête il y a plus de 10 ans. Et donc, ce nouveau film qui avait passé par le TIFF, qui avait quand même des bonnes critiques. C'est un film qui divise, c'est assez expérimental, supposément. Sinon aussi, Les êtres chers d'Anne Aymon, son deuxième film après Nuit numéro 1. Moi, je trouve que ça a l'air... J'avais eu de la misère un peu avec Nuit numéro 1 parce que c'est très, très... c'est une proposition très structurée. Tu sais, c'est vraiment... On va en trois axes distincts. Tu sais, chaque personnage prend la parole un après l'autre pendant une demi-heure. Fait que c'est un film vraiment qui est difficile, je pense, à s'identifier puis à plonger au cœur du drame.
Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé numéro 1, fait qu'évidemment, je pourrais répondre à ça. Mais disons que, ne serait-ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était vraiment une proposition unique dans le paysage du cinéma au Québec. Il y a beaucoup de premiers films au Québec. Il y a beaucoup de cinéastes comme ça qui font justement des premiers films, mais ils sont assez rares, finalement, les cinéastes que, assez rapidement, ont une voix unique, ont un style vraiment distinct, puis que finalement... le cinéaste devient quasiment plus intéressant que son film, tu sais, ne serait-ce que par la proposition. Puis Anne Aymon, c'était vraiment ça, tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas numéro 1, je pense que tout le monde a envie de voir qu'est-ce qu'elle va faire avec son deuxième long-métrage. Puis ça, en soi, c'est une grande réussite pour un premier long-métrage de pouvoir justement se faire ce genre de commotion-là au sein du public québécois. Fait que moi, Les êtres chers, définitivement, je vais aller le voir, d'autant plus que, comme je disais, moi, je défends beaucoup numéro 1, j'avais vraiment adoré. Moi, il y a un film... Le premier long-métrage de fiction de Philippe Lesage qui s'appelle Les démons. Le film m'a vraiment gagné par sa bande-annonce. Philippe Lesage, c'est un documentariste à la base. Il a réalisé 2 longs-métrages documentaires par le passé. Ça, c'est son premier film de fiction. Moi, j'ai peut-être une affection particulière pour les cinéastes comme ça qui font des fois un pont ou qui sont capables de jongler entre les deux. Je trouve que ça donne souvent une belle couleur au film de fiction, tu sais, quand tu as une sensibilité un peu plus de documentaire. Mais celui-là, il a quand même l'air de vraiment pleinement assumer sa mise en scène. On parle même dans la description du film d'un film qui assume son penchant pour le cinéma de genre puis les codes un peu du cinéma d'horreur, mais à travers finalement un genre de portrait d'un jeune homme troublé de 9 ans. Sur papier, ça a l'air vraiment super. Donc, il y a peut-être lui que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir.
On a aussi le retour de Denis Côté, 2 fois plutôt qu'une. Il va nous présenter son court-métrage « Que nous nous assoupissions ». qui a déjà joué dans plusieurs festivals. Et il participe également à une anthologie avec trois autres cinéastes. Donc, il y a ça du côté québécois. Côté québécois, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez marquées?
Je pense que québécois-canadien, mais Guy Madden, là.
Oui, ouais, le film de clôture. Oh.
D'ailleurs, qui a déjà été présenté ailleurs, qui a déjà cumulé des critiques un peu partout. Puis l'engouement critique est vraiment, vraiment positif autour du film. Il y a un gros buzz. On parle d'un film ovni, ben, évidemment, avec Guy Madden, mais c'est un film qui avait été tourné tout au centre fille avec beaucoup
de. À New York aussi, en fait. C'est, ouais, aussi. C'était dans plusieurs grandes villes. Dans des centres d'art. Je pense que compiler les meilleurs short films, les meilleurs bouts qu'il y avait que tourné dans ces centres-là.
Ouais, mais en tout cas, si vous êtes un cinéphile qui recherche des nouvelles expériences, je pense qu'aller voir ce film-là de Guy Madden, c'est un rendez-vous. Là.
L'ouverture a aussi le tout nouveau testament, là, l'ouverture et la clôture. L'ouverture paraît que c'est vraiment, vraiment génial. Il est déjà sorti en France, là.
Ouais. Okay. Moi, c'est drôle, ça ne m'attire pas en tout, on dirait, ce film d'ouverture-là. Mais...
Ouais, mais pour vrai, les reviews sont super bonnes. C'est comme, c'est super accessible, mais en même temps, il paraîtrait que c'est super bien. C'est bien réalisé, puis c'est surtout bien écrit, là.
Mm-hmm. On notera aussi le retour de Charles-Olivier Michaud avec Anna, qui a l'air très, très bien. Hein. J'ai vu la bande-annonce. J'avais été quand même très déçu par Exil, qui était sorti vraiment de manière assez anonyme l'an dernier.
Fait qu'une grosse représentation, c'est ça, cinéaste québécois-canadien. Puis de tous les premiers films, puis de tous les cinéastes qu'on connaît pas nécessairement, j'espère justement, pour encore revenir à Anémon, mais j'espère qu'il y a quelques cinéastes comme ça, qu'on va voir un film, qu'on va découvrir, puis qu'on va faire « Wow, tu sais, ça, c'est un artiste qu'on a vraiment envie de savoir où est-ce qu'il va s'en aller dans la continuité. » Je nous souhaite ça, parce que, tu sais, je sais pas, j'en ai vu beaucoup des premiers films qui sont bien écrits, compétents, bien actés au Québec, mais que... je sais pas, tu sais, j'aurais pas beaucoup d'adjectifs qualificatifs pour tu sais, sur le cinéaste derrière. Puis tu sais, qu'on aime ou qu'on aime pas, Xavier Dolan, c'était ça qu'il avait fait, tu sais, avec J'ai tué ma mère, qu'on aime ou qu'on aime pas, ça aussi, c'était un film qui est comme, qui avait tellement de qui était tellement affiché, tu sais, qui était tellement flamboyant que tout de suite, il fascinait en tant qu'artiste. Fait que je nous souhaite collectivement, en fait, des cinéastes comme ça. Donc j'espère qu'au FNC, on va en trouver.
Tout à fait. Outre le Québec, donc, qu'est-ce qui se passe au FNC? Y a-t-il des bons films, Pascal? Y a-t-il quelque chose qui retient ton attention?
Ben oui. Non, non, il y en a. Hey, c'est vraiment drôle. Voulez-vous que je vous conte un secret d'initié, un peu?
Oui,
j'étais allé porter, parce que moi, en tout cas, j'ai un film qui joue au Festival de Nouveau Cinéma, puis j'étais allé porter finalement le DCP de mon film pour le festival. Puis j'ai croisé Philippe Gageant, qui est à la programmation des courts-métrages internationaux, québécois. Il programme plein d'affaires, en fait. Là. Ils ont,
FNC Lab
ouais,
aussi.
Ouais, c'est ça, FNC Lab. T'sais, ils ont une équipe qui a beaucoup de liberté. En tout cas, il me parle souvent qu'il y a beaucoup de liberté dans ses choix, puis dans ce qu'il fait. Puis il va à Cannes tout le temps, il essaie de ramener un peu ses coups de cœur de Cannes. Puis je l'avais vu, puis j'ai dit ça va, puis là, il soupirait. Il dit, ouais, je suis là, quoi, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les deux films que je voulais le plus avoir, on les a pas. Et il m'a mentionné The Assassin et voyons, Mille et une nuits de Miguel Gomez.
Ah.
Et donc, de voir la surprise quand la programmation est sortie, de voir que non seulement The Assassin est là de Wu Xiaoshen, mais qu'en plus, le film,
la trilogie
épique des Mille et une nuits s'y retrouve. Donc, c'est ça.
Ajoute dernière minute.
C'est ça, ajoute probablement de toute dernière minute. Puis c'est ça, je lui ai écrit. Je lui ai dit, ah ouais, tu sais, bravo, good job. Puis il était comme, ouais, on a sué pour les avoir. Donc, en tout cas, puis finalement, c'est deux des films aussi que moi, en tant que cinéphile, j'ai vraiment particulièrement hâte de voir. Mais je sais que supposément qu'ils sont bien battus pour ceux-là. Donc, ça serait le fun, là, des salles combles. Ça serait le fun que tout le monde aille les voir. Donc, il y a ces deux-là, certainement, que je veux voir. Absolument.
Non, tout à fait. Et aussi, ce qui est drôle, c'est que, bon, moi, j'ai parlé beaucoup du film The Assassin au cours des mois. Ça fait une couple d'années que je l'attends. Puis, tu sais, je jasais aussi avec notamment Philippe Gageant, puis la page de Facebook du FNC. Et j'ai l'impression que j'étais devenu un petit peu le porte-parole de ce film-là. Puis, là, le cinéma du parc m'a tweeté pour me confirmer qu'il y aurait une sortie en salle le 6 novembre.
Yeah. Hey, c'est bientôt, waouh, ok, si tôt ça.
Un mois après le festival, donc si jamais vous avez pas le temps de le voir au FNC ou que vous préférez aller voir un autre film que vous pensez qu'il sera peut-être pas en salle, qui joue en même temps, eh bien sachez qu'il joue au Cinéma du Parc. Même chose pour la trilogie, Les Mille et Une Nuits, ça joue en décembre au Cinéma du Parc. Les dates sont pas encore confirmées, mais ça va jouer dans le courant décembre.
Cool.
Donc ça au moins on est sûr de pouvoir à tout le moins les rattraper par la suite. Cette année, c'est ça, c'est vraiment, en tout cas, du côté asiatique, souvent, tu sais, c'est souvent, bon, moi, personnellement, c'est un cinéma qui m'attire particulièrement, et c'est pas toujours un cinéma qui est dans les priorités des festivals, parce que c'est pas aussi vendeur que, mettons, le cinéma français ou le cinéma américain, ou peu importe. Mais cette année, vraiment, de tous les horizons, il y a des gros films. Outre The Assassin, il y a le nouveau Tsai Ming-Yang,
Ouais.
un documentaire. Il y a le nouveau film de Apichapong
Ouais.
Wrasetakul, Cemetery of Splendor, qui a eu des très bons échos à Cannes. Notamment, il y a le nouveau Naomi Kawase qui jouait aussi à Cannes. Il y a le nouveau Takeshi Miike, Yakuza Apocalypse dans la section Temps Zéro. Il y a un des nouveaux Sion Sono de cette année, un des sept, de Whispering Star qui joue à Toronto. Ça arrête plus, là. C'est comme
Ouais,
un après l'autre. Aung San-Suu aussi qui a gagné le Locarno,
ouais.
le Léopard d'Or.
Sokurov en Russie, tu sais, non, il y a vraiment les gros canons du cinéma international, là.
Parmi tous ceux-là que j'ai nommés, y en a-tu un qui vous attire particulièrement, Rémi ou Pascal?
T'as peu lesquels tu viens de nommer? Non, non. Non, mais tu sais, c'était ça. Non, mais
Tout cela,
c'est
vrai
ouais,
un
tous
peu.
ceux-là, un peu, là. Tu sais, c'est. J'essaie de pas des fois trop lire sur les films, pas des fois tout le temps voir les bandes annonces, parce que je me dis si le film je suis déjà vendu d'avance par le cinéaste puis par le c'est ça par le portfolio du cinéaste, des fois j'aime quasiment mieux arriver avec ma virginité intacte.
Ouais, souvent c'est le coup de chance qui fait que le film il prend une coche en
Ouais.
plus là.
Ouais. Il y a aussi t'as pas mentionné mais Jafar Panahi
Ouais.
supposément aussi Jafar Panahi Taxi, lui qui a comme eu étrangement un genre de deuxième souffle à sa carrière depuis son emprisonnement. Il est confiné chez lui là, par les autorités iraniennes. Là, je ne sais pas encore c'est quoi l'état. Peut-être que ça a changé dans la dernière année ou quelque chose comme là.
Ah non, il est toujours banni de faire du cinéma, ouais.
Ouais, bah, c'est ça. Il est toujours banni de faire du cinéma, mais il a une voix plus portante que jamais. Puis non seulement ça, mais il a les couilles de. Il change pas son nom. Il n'y a pas de pseudonyme, même qu'il met son nom dans le titre de son fucking film. T'sais, c'est un gros fuck you. T'sais. Puis ce
Ouais,
cinéaste-là,
clairement.
il est vraiment en train de. C'est vraiment comme le punk du cinéma iranien ces temps-ci, tu sais, puis mais encore avec une conscience sociale vraiment intéressante. Fait que Jafar Panahi, moi ça aussi c'est un film que je recherche, ben, tu sais, que j'ai hâte de voir. Il y a un documentaire sur Reiner Fassbinder que ça c'est sûr qu'il faut voir. Fassbinder c'est une des figures là sacrées un peu des enfants terribles du cinéma. Il y a tellement,
Une étoile filante.
ouais c'est ça l'étoile filante le gars il a fait je pense c'est ça une quarantaine de longs métrages en comme 20 ans de carrière, une affaire ridicule tu sais. Puis, incluant d'ailleurs une mini-série de comme 10 heures, là, t'sais. Mais c'est qu'il y a tellement de mythes autour de Fassbinder, de cet homme-là, justement, que tous les moyens étaient bons, qu'on juge amoral, mais en même temps, il y a tellement de la sensibilité dans ses films que ça peut pas être un monstre non plus. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour savoir qu'est-ce qui est mythe, qu'est-ce qui est vrai, ce documentaire-là, moi, c'est un autre incontournable, je pense. Puis ouais, je veux dire, on peut continuer, c'est sûr, mais grosse programmation là, cette année au FNC, c'est sûr, là.
Oui, donc toutes les informations sont disponibles au nouveaucinéma.ca. Et nous, sachez qu'on va faire quand même une couverture assez intense du festival, comme à chaque année. Donc, que ce soit des podcasts, des entrevues, des critiques écrites, suivez-nous sur pointdevue.net. Et suivez-nous également sur Facebook et Twitter pour avoir plus d'informations là. Donc, voilà. Sinon, on a également vu des films cette semaine, des films réguliers, hors des festivals. Aussi peu probable cela peut sembler à nous écouter dernièrement. Moi, je suis juste dans les festivals dernièrement. Mais toi, notamment, Pascal, tu as vu le nouveau film très attendu, Guibert s'en va en guerre de Philippe Falardeau.
Non seulement je l'ai vu, je l'ai vu deux fois.
Tu l'as vu deux fois dans la sortie.
Je l'ai vu deux fois parce que
Et c'est pas par devoir, c'est parce que tu as aimé le film, tu voulais aller le réécouter et tu avais l'occasion de le revoir.
ouais, puis j'ai tellement aimé le film, les gars, là, que je trouve tout le temps, on dirait que la comédie perd tout le temps sa demi-étoile critique, on dirait, là. Comment je pourrais dire ça? Je vois beaucoup de critiques comme des 3 étoiles. Les meilleurs, c'est pas mal des 3 étoiles et demie sur 5, tout ça. Puis, en tout cas, moi, dans mon livre à moi, c'est un gros 4 étoiles. Puis j'ai envie de le défendre. Puis j'ai envie de. C'est parce qu'il est beaucoup critiqué. D'utiliser la caricature un peu t'sais, au cœur de son récit. Puis moi, finalement, je trouve pas que c'est une critique qui est valide, puis j'ai vraiment envie d'en parler pour en faire un bon procès. Mais avant ça, je vais revenir à pourquoi je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu au Festival de la Ville de... Ouais, je l'ai vu au Festival de la Ville de Québec parce que c'était le film qui était présenté avant la soirée de remise de prix. Fait que, t'sais, c'est un peu le film, un peu le genre de film événement de cette soirée-là, puis je pouvais comme pas le manquer, t'sais, parce que justement, ça faisait partie de toute la soirée et tout. Donc, je l'ai vu là au Palais Montcalm à Québec. Et finalement, ben, ma copine travaille pour E1 Distribution. Puis, on est allé aussi, on est retourné à l'Impérial, à la première à Montréal, quelques jours plus tard, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'est rare qu'on a le luxe au podcast de parler d'un nouveau film qui n'est pas finalement une première impression. D'entrée de jeu, je vais vous le dire, il marche deux fois, il est drôle deux fois. Tu sais, je me suis surpris à rire des mêmes gags les deux fois que j'ai écouté le film, tu sais. Donc ça, c'est très bien à la base. Moi, je le dis cash, c'est le meilleur film de Falardeau, ou du moins, c'est le moi, c'est le film que j'ai vraiment le préféré de sa filmographie. Moi, en fait, il fallait remonter à la moitié gauche du frigo, hein. J'ai toujours... parce que c'est clairement pas son film le plus assumé. Tu sais, je veux dire, d'un point de vue mise en scène, évidemment, M. Lazare est bien plus en possession de ses moyens que la moitié gauche du frigo, par exemple.
Ben, c'est un autre style.
Puis c'est un premier long faux doc qui, je trouve, des fois, il est un peu off, là. À Marani, je trouve des fois qu'il joue un peu trop caricatural pour du faux doc. Reste que c'est un grand film, là, La moitié gauche du frigo, mais beaucoup pour son propos, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais pas dans Marani, c'est parce que je pense qu'il y a une façon de s'exprimer. Je pense que c'est lui, il y a un delivery en tant qu'acteur qui est peut-être un peu inhabituel à l'oreille. Peut-être un peu théâtral. Par contre, je trouve que dans ce qu'il fait, il fait très bien. Dans Kongorama, il est très bon aussi. Je sais que toi, Paul, t'aimes particulièrement Kongorama, là, si on parle de la filmographie de Philippe Falardeau.
Ouais, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films québécois de notre génération, le Kongorama.
Ah ouais, tant que ça, ouais.
Ouais, ça va être dur. Ben, en tout cas, ça va être dur pour Guibord dans mon cœur de le déplacer, mais écoute, sera-t-il aussi convaincant.
Ben, tu sais, en tout cas, c'est pas une compétition dans ce sens-là, mais pour c'est un peu comme la même chose que j'avais dit avec Spike Jonze quand je parlais de Her. Je trouvais qu'enfin, il y avait un film qui méritait le cerveau du cinéaste. T'sais, je trouvais tout le temps qu'il y avait des bribes de génie dans tous ces films. Mais peut-être par contrainte, peut-être pour X raisons que Dieu seul sait, je trouvais jamais que les films étaient au maximum de leur potentiel, tu sais, de leur promesse, ne serait-ce. Parce que tout le temps, les idées, les germes d'idées, les commentaires sont tout le temps vraiment forts dans les films de Philippe Falardeau. Mais j'en suis jamais sorti avec, tu sais, le ventre plein, là, tu sais, d'un film qui m'a comme copieusement vraiment, tu sais, alimenté la tête et tout. Là, bon.
C'est cool parce que c'est après son passage aux États-Unis, il revient au Québec, puis il fait un grand film. Ça m'a tout l'air d'après ce que tu dis. Là.
Mais il fait un grand film. Moi, je trouve, je vais le dire, moi, je trouve qu'il fait un grand film, mais le plus sans prétention du monde. C'est le film où, je crois, il s'amuse le plus avec le médium. Écoute, le film commence sur un plan de la carte du Canada. Un homme arrive, il est comme backlighté, tu sais, comme dans les entrevues, là, où des fois, on pitch shift aussi là, la voix du monde pour pas qu'on comprenne c'est qui. Puis c'est clairement Philippe Falardeau, là, tu sais, puis avec sa voix, en tout cas, on le remarque évidemment que c'est lui, mais on le voit pas vraiment. Puis il commence le film en disant « Ce film est tiré de faits vécus qui ne sont pas encore produits, mais qui ne sauraient tarder. » Puis il s'en va, puis après ça, t'as comme un zoom-in, un dolly-in, genre sur la carte du Canada, puis ça s'en va comme dans une espèce de pit pas possible là, au nord de l'Abitibi, puis tout ça, dans une grosse circonscription. Puis là, on suit Guibord, un député fédéral indépendant, qui est un peu un genre de politicien qui n'existe pas, mais qui devrait peut-être exister, ou du moins, je pense que c'est comme ça que Falardeau le dépeint. Il le dépeint comme un peu un genre de politicien utopique, tu sais, mais qui est pris dans un absurde. Puis c'est un peu le seul personnage un peu sensé dans un monde de fous aussi. Il y a beaucoup de films qui utilisent ça, beaucoup de comédies qui utilisent ce genre de device-là, finalement, qu'on s'identifie au seul personnage qui agirait un peu comme le gros bon sang. Mais ce personnage-là, c'est Guibord. Puis c'est drôle parce que je pensais, la bande-annonce laissait présager que... je sais pas, que peut-être que, étant donné que c'est un politicien, ou peut-être que c'est juste Patrick moi Huard qui projetais quelque chose, puis que c'est Patrick Huard, que ça allait être un peu un personnage bouffon, un personnage, tu sais, qu'on allait avoir un genre de plaisir malsain à regarder s'enfoncer dans des situations.
Ben, puis Patrick Huard, qui dans ses derniers films joue toujours un personnage semblable.
C'est
un personnage type dans ses derniers longs-métrages.
Il y a un casting un peu haïssable, peut-être aussi. Dans son espèce de... Tu sais, la grande gueule un peu, mais comme qui a pas le cœur à la bonne place, peut-être. Je sais pas si c'est un petit peu ça, peut-être, son genre de casting dans l'œil public. Guibord, en fait, ça m'a surpris, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment... C'est comme un genre de Candide là, au terme philosophique du au sens philosophique du terme, qui est là puis qui réagit du mieux qu'il peut. Puis non seulement ça, mais en plus il y a beaucoup de références d'ailleurs à Rousseau puis à Voltaire puis à tout ça dans le film Montesquieu. Puis bon, puis t'as le personnage haïtien joué par Irden Exantus, ouais c'est ça, qui arrive, qui est un stagiaire puis qui finalement devient un peu le bras droit de Guy Bard dans une situation qui le dépasse, c'est-à-dire Guy Bard devient le seul député qui a la balance du pouvoir sur le vote qui va déterminer si oui ou non le Canada va en guerre au Moyen-Orient. Parce qu'évidemment, toutes les parties au pouvoir sont pour, toutes les parties de l'opposition sont contre, puis ça donne finalement lui qui ne s'était pas proclamé, ça le rend au cœur de tout ça, puis là, tout le monde veut savoir, Guy Bard, mais toi, Guy Bard, c'est quoi ton opinion, tu sais. Puis là, ça prend des proportions épiques, pour un député, tu sais, qui était habitué à gérer ces petits conflits régionaux, là, tu sais, disons ça comme ça. Le film fait un excellent travail d'opposer justement le micro puis le macro. Tu sais, à Mané, par exemple, pour illustrer un peu ce que je dis là, Mané Guy Bard, il fait des assemblées nationales, pas nationales, de quoi je parle, il fait des assemblées dans chaque ville, tu sais, de son comté un peu, puis pour que les gens s'expriment sur la guerre. Puis tout le monde s'en calisse de la guerre. Tout le monde veut juste savoir quand est-ce que les routes vont être débloquées, quand est-ce que la mine va reprendre du galon, quand est-ce que, tu sais. Fait que finalement, il y a vraiment l'absurde de tout ça, de la guerre au bout du monde, tu sais, qui nous affecte, oui, parce qu'on est tous habitants de la même planète, mais qui nous affecte, tu sais, pas réellement. Puis c'est pas ça vraiment qu'on attend jamais nos politiciens, au final, tu sais. Ben, le film utilise la caricature. Il y a des personnages, oui, secondaires, oui, caricaturaux, mais les situations sont... Il utilise finalement les personnages caricaturés pour faire des situations très ambiguës, pour que finalement les oppositions de ces caricatures-là donnent quand même une bouillie d'ambiguïté de situation qui est vraiment riche, tu sais. Puis il y a un beau travail de nuance. C'est juste chez Guy Bard, il y a la fille, sa jeune fille... C'est son ado, là. Elle veut vraiment pas, tu sais, elle veut rien savoir que le Canada est en guerre. Puis il y a sa femme qui, tu sais, qui est comme pour la guerre aussi. Fait que t'as comme un peu le petit ange puis le petit démon, là, tout le temps qui le travaille. Puis t'as son stagiaire qui est là puis qui essaye de tout le temps naviguer de façon un peu peut-être philosophique à travers tout ça. Puis aussi, ce qui est vraiment magnifique dans le film, c'est que par le regard de l'haïtien, la politique canadienne devient excitante. Tu sais, je pense que dans un pays comme ça où la démocratie est tellement prise pour acquis, je pense que on est blasé. On est généralement, je crois, en tant que société, un peu blasé de la politique. Mais là, t'as comme le personnage de l'haïtien qui est tellement émerveillé par tout ce qu'il voit que t'as comme pas le choix de toi aussi être un peu émerveillé par tout ça. Puis c'est vraiment ça, c'est l'ingénu de Voltaire, mais qui arrive puis qui devient un acteur au lieu d'être seulement un genre de regard critique sur la société. Il devient un acteur puis il est excité d'être un acteur de ces enjeux-là. Puis ce qui est vraiment super dans le film, c'est que le personnage d'Irden Exantus, lui, il Skype avec son frère, sa mère puis tout le monde en Haïti. Puis eux autres sont super intéressés par la politique canadienne, puis ils posent des questions, puis le running gag aussi, c'est que plus ça va, puis plus il y a des gens qui se greffent à toutes les fois qu'il y a un Skype en Haïti, ça devient un genre de show, ouais. Ça devient un genre de reality show de comme, mais qu'est-ce qui va se passer dans la politique canadienne? Puis de voir cette espèce d'enthousiasme-là, d'engouement bon enfant-là, c'est, oui, qui est caricatural, mais pour vrai, on s'en crisse. C'est tellement drôle, c'est tellement bien fait. Puis tu ris franc, puis bordel, Patrick Huard, il est bon dans ce qu'il fait. Suzanne Clément, c'est bon, tu sais, c'est un... Puis aussi, ce que je veux vraiment mentionner, c'est que c'est vraiment très drôle que Philippe Falardeau, oui, à travers de l'humour très bright par moment, mais va aussi assumer un humour pleure de banane, va aussi assumer un genre d'humour burlesque à la quasiment Buster Keaton. Tu sais, il conjugue humour un peu de bas étage à humour du plus haut étage possible pour en faire juste un film qui est comme juste satisfaisant, qui te colle le sourire dans la face tout le long, puis qui te surprend à finalement réfléchir, tu sais. Non, moi, c'est un gros coup de cœur.
Moi, j'ai une question pour toi, Pascal. Il y a un phénomène aux États-Unis où ça peut arriver parfois que deux studios concurrents vont sortir un film vraiment similaire à quelques mois d'intervalle. Tu sais, on pense à Armageddon, puis Deep Impact, ou on pense à The Prestige, puis L'Illusionniste. Là, au Québec, il y a comme une espèce de malaise. Il y a comme deux films avec Patrick Huard qui sont sortis à quelques mois d'intervalle, qui a comme sidekick un personnage haïtien. Est-ce que. Là, je parle d'Ego Trip, là, bien évidemment.
Ouais,
Est-ce
bien
que
évidemment.
tu avais vu Ego Trip et est-ce
Non,
que.
bon.
Non,
On
ok.
s'entend qu'Ego Trip il a shifté en termes de temps, par contre, le Guibar, là, donc c'est comme
Ouais.
Ego Trip qui gagne.
De quoi tu parles?
Ben, non, mais il est sorti avant, là. C'est comme, c'est souvent ça dans les duos de films sur la même thématique. Tu fais comme, ah, l'autre est sorti avant.
Ouais, c'est ça.
Deep
Genre,
Impact est sorti à une semaine
tu sais,
d'Armageddon.
je vais.
Genre, Terrence Malick, après 30, 20 ans de silence, il sort de Thin Red Line, puis genre un mois et demi après, comme Sauver Soldat Ryan, tu
Mais
sais.
je me demande si ça peut pas
Ouais,
jouer
ben.
négativement envers ce film-là, tu sais, même pour les gens qui l'auront pas vu ou qui connaissent pas Philippe Falardeau, parce que peut-être des
Ouais.
gens auront vu Ego Trip il y a quelques mois, puis
Je pense pas que les gens ont vu Ego Trip, c'est ça
ben, il a
l'affaire.
quand même fait
Ben,
presque un
fait un
million de dollars, je
million, ouais,
pense.
c'est
Ouais.
ça.
Puis il y a eu des critiques assez mauvaises. Bon, ensuite, je sais pas c'est quoi la réception grand public là, du film. Mais tout ça pour dire que c'est assez rare au Québec qu'on ait comme deux films qui se ressemblent comme ça, puis qu'en plus avec le même acteur, tu sais. Donc, je sais pas, il y a comme un certain malaise là. Aussi.
Sachant qu'en plus, le financement vient des mêmes places, tu sais.
Ah ouais, c'est le même distributeur.
Ben, en fait, oui, c'est le même distributeur, hein. C'est
Ah ouais.
E1 qui, c'est Film CV E1 qui distribue les deux. Mais non, non, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je veux dire, Téléfilm Sodec, tout ça, tu sais, les films, tu sais, tu le vois, là, si tu as quatre scénarios qui se ressemblent, puis tu finances, tu sais, deux. Mais, n'ayant pas vu Ego Trip, je peux pas, je sais pas s'ils se ressemblent tant que ça, en fait, puis je présume qu'ils se ressemblent pas tant que ça.
J'en profite pour annoncer le lancement de ma campagne Kickstarter. Je fais un nouveau long métrage avec Patrick Huard qui se déroule en Haïti. Donc, je devrais avoir le financement pour ça. Mais sinon, est-ce que. Bon, question de timing, là. Tu sais, en tant que Québécois, est-ce qu'on a le goût de voir un film sur la politique, sur la campagne électorale en ce moment?
Oui, puis c'est le meilleur timing possible. Moi, je
Ouais.
pense. Moi, je pense que c'est le meilleur timing possible parce que le film, comme je dis, ce qu'il fait de plus de mieux. Si on dit vraiment là, c'est quoi son plus grand attrait là, pour moi, à Guy Barre, là, si j'ai un argument à dire, c'est il te donne une dose d'adrénaline à la politique fédérale. Tu sais, vraiment là, il met le spectateur au cœur de ces genres de conflits-là, puis alimente un peu la position du spectateur, que ce soit au niveau de la guerre, mais que ce soit à tout plein de niveaux, puis à tout plein de priorités, puis d'enjeux. C'est que ça place finalement le spectateur au cœur du débat, puis ça lui donne une certaine importance, peut-être du fait que comme tu as tellement de fun à être pour ou contre ou telle affaire, que ouais, ça fait juste donner une grosse dose d'adrénaline à la politique fédérale, dans un sens. Puis, tu sais, si le film, là, réussit à faire ça, c'est vraiment un gros mandat de relevé, tu sais. Puis, moi, je pense que oui, donc, il faut un petit peu désamorcer un genre de cynisme planant, tu sais, par rapport aux élections. Je pense que ce film-là est un beau remède. Puis oui, c'est en fait, c'est un drôle de parti pris, mais je pense que c'est un parti pris de le sortir comme ça à ben, même pas un mois, là, des élections. Mais moi, je pense que c'est finalement le meilleur timing possible.
Parfait. Donc, tu encourages les gens à aller voter avec leur portefeuille en allant voir Guy Barre s'en va en guerre en salle.
Ouais. Dernière mention
Ouais.
qu'il faudrait. La musique de Martin Léon est superbe. D'ailleurs, Hugo Meyrand, nos amis, a travaillé là, avec Martin Léon là, à la
Oui,
musique.
oui.
C'est un des films québécois qui a les. Un des films points, là, je vais arrêter tout le temps de dire de mettre ça comme si c'était en vase clos, là. Mais c'est un des films cette année qui a une des identités les plus fortes au niveau musical, au niveau sonore. Vraiment plus musical que sonore, parce que le film est quand même, somme toute. Prend un parti pris assez réaliste autrement là, dans sa mise en scène et tout. Mais c'est vraiment à la première, à l'Impérial, il s'était bien dit, il avait dit, Philippe Falardeau, il avait dit, c'est un peu la locomotive du film. Je vais lui enlever les mots de la bouche. C'est vraiment comme ça que c'est perçu. La musique aide énormément au niveau du rythme, aide énormément à bien comprendre l'ambiance, le ton. Tu sais, c'est une espèce de genre fanfare avec un thème qui est repris, avec réorchestré de tout plein de façons. Il y a comme un peu des instrumentations qui rappellent peut-être la musique des Premières Nations par moment, parce qu'il y a aussi des enjeux avec des Algonquins puis tout ça dans le film. C'est vraiment intéressant le travail musical. Ça, il faut absolument le souligner. C'est une des plus grandes forces du film. Dernière affaire, dernier point promis. Philippe Falardeau, finalement, oui, d'un côté, il y a les gros canons, les gros acteurs, tout le kit, mais il y a aussi une volonté de. de dialoguer avec les vrais gens. Puis je pense notamment justement aux Algonquins. Il y a beaucoup...
qui sont des acteurs non professionnels. En
ouais, film. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a aussi un travail, il y a un double jeu, il y a un travail entre du vrai monde, disons ça comme ça, puis ces acteurs-là, tu sais, qui jouent un scénario très écrit, tu sais, une comédie très, très, très... quirky là, tu sais, désolé l'anglicisme, mais le, fait que ouais, ça fait des belles oppositions, puis ça fait juste bénéficier au film. Vraiment un gros coup de cœur pour moi là. J'aimerais ça, j'aimerais donc ça que le film fasse un gros box-office, tu sais, j'aimerais ça là. Fait qu'on le souhaite.
Parfait, donc ça fait le tour de notre épisode cette semaine. On a eu des petits problèmes techniques, donc on peut pas enregistrer plus longtemps. On vous invite à aller voir. On va se quitter sur la bande-annonce de Guy Bas en temps guerre justement, qui sort ce vendredi 9 octobre. En salle, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landriot, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante, désolé, c'était court, mais c'était le fun. That's what she said. Salut, bye.
S'ouvrir, c'est ça, hein?
Oui, oui. Pourquoi tu veux suivre un stage ici, à Rapide, loin de la capitale, loin de tout?
Eh bien, j'ai envoyé ma lettre à son député, mais vous êtes le seul qui m'a répondu.
T'arrives tout exactement?
Pour presse, exactement.
OK.
Pour le stage, je suis en mission, pour apprendre.
Quand je suis au Parlement, les lundis, vendredis, je consacre au bureau. Je lis mes documents, raconte le monde du comté.
Je suis une fille du Nord, née une nuit d'aurore.
Mardi, mercredi, jeudi, je fais du terrain. Tu vas voir, pas ça qui manque par ici, du terrain. Vous voulez quoi aujourd'hui?
Commencez, là. Appuyez-nous donc.
Il n'y a pas de secret, hein, souverain. Il faut rester proche du monde.
Je demande un mandat clair au Parlement pour envoyer l'armée.
Tu vas voter pour? Quoi?
Je vais m'abstenir.
T'abstenir?
Je vais commencer par régler les problèmes dans le comté, puis je sauverai la planète après.
Vous pouvez consulter les électeurs. Vous êtes indépendant.
Pas sûr que j'ai le temps pour ça, moi. Quelqu'un qui veut une bière?
Moi. Monsieur Guibert!
La députée conservatrice de Peace Valley en Alberta a annoncé qu'elle s'abstiendra
lors du vote sur l'envoi des troupes canadiennes.
Conservateur, 155 sièges.
Les conservateurs ont perdu un vote.
P. L'opposition, 153, pas moi.
Vous avez, comment dire, la balance du pouvoir sur la guerre?
Vous, vous êtes pour ou contre envoyer l'armée canadienne faire la guerre?
Dans la situation, il y a ici toute une magnifique fenêtre de démocratie directe. Je pense que c'est mon devoir de consulter la population.
Le vote décisif?
Oui, dans ma tête, ça, là, tu me fais monter le stress.
T'as une chance de montrer que t'es un leader, Steve.
Monsieur Guibert, vous avez un appel d'Ottawa. C'est le bureau du premier ministre.
I'm about to reshuffle my cabinet. I can name whoever I want, as long as the person is an elected member of parliament.
Sais-tu comment le monde va me regarder? La fille du gars qui envoie ma génération en guerre.
Monsieur le maire.
Steve, toi et moi, pas sur la même longueur d'onde.
Tout le monde pense que c'est moi le gros méchant.
Vous bloquez les routes pour que les Algonquins ne bloquent plus la route.
C'est sûr que, d'une même...
Arrête de subir. Prends mes commandes.
Bing. J'ai bien hâte de voir ça, Monsieur Guibert.
Je vais vous dire, moi, ce qui va changer si on part en guerre.
Des gens!
Qui c'est qui est pour la guerre, ici?
T'es rentré en politique pour changer les affaires?
Mais tu peux pas.
Même avec la plus grande volonté du monde, t'as pas de pouvoir.
Ce serait le fun que ton sacrifice en vaille la peine.
Votez pour Canada for Freedom.
Le monde ici, ils veulent des jobs.
Avez-vous fini de nous prendre pour des melons?
Moi, je dis fuck off.
Tu n'as pas d'opinion.
Ton vote est pas à vendre.
Pour ou contre? Ça me semble c'est simple.
Pis toi, Guibert, c'est quoi ton opinion?
Mon petit gang de malade!
Qu'est-ce que c'est ça?
T'as appris dans tout ça?
J'ai appris que je ne savais rien.
Oh boy, ça fait des années que j'ai compris ça.